Une légende dit que, à l'instant où le duc Leto mourut, un météore traversa le ciel au-dessus du castel ancestral de Caladan. Introduction à l'histoire de Muad'Dib enfant par la princesse Irulan. Le baron Vladimir Harkonnen se tenait devant une des baies d'observation de la nef où il avait installé son poste de commandement. Au dehors, la nuit d'Arrakis était embrasée. L'attention du baron était fixée sur le lointain bouclier où se déchaînait son arme secrète, l'artillerie à explosifs. Les canons pionnaient les cavernes où les hommes du duc avaient trouvé refuge pour une ultime résistance. Morsures de feu, pluie de rochers et de poussière entrevues en un éclair. Les hommes du duc seraient murés là-bas comme des animaux pris au piège, condamnés à périr de famine. Le baron percevait cet incessant martèlement, ce roulement de tambour que lui transmettait la coque de métal du vaisseau. Boum, boum, puis boum, boum. Utiliser l'artillerie au temps des boucliers, il fallait y penser. Cette pensée était comme un rire d'exultation. Il était facile de prévoir que les hommes du duc se précipiteraient dans ces cavernes. L'empereur saura certainement apprécier l'habileté avec laquelle j'ai ménagé nos forces communes. Il régla un des petits suspenseurs qui protégeait son corps adipeux de l'emprise de la pesanteur. Un sourire vint déformer sa bouche et plisser ses joues. Quel dommage de perdre des hommes de cette valeur, se dit-il. Son sourire devint plus large. Il rit à présent. Quel dommage d'être cruel. Il hocha la tête. L'échec était, par définition, condamné. L'univers tout entier était ouvert à l'homme capable de prendre les décisions adéquates. Et il fallait forcer les lapins à se cacher dans leur terrier. Sans cela, comment les dominer? Comment les élever? Les combattants, là-bas, étaient comme des abeilles harcelant et guidant les lapins. Et le baron songea, l'existence est comme un bourdonnement très doux quand tant d'abeilles travaillent pour vous. Derrière lui, une porte s'ouvrit. Le baron jeta un coup d'œil rapide au reflet dans la baie avant de se retourner. Peter De Vries entra, suivi d'Eumann Kudu, le capitaine de la garde personnelle du baron. Au-delà du seuil, il y avait des hommes, ses gardes. Ils arboraient cette expression de mouton soumis qu'ils avaient en sa présence. Le baron fit face à ses visiteurs. Peter porta un doigt vers son front en une esquisse de salut moqueur. « Bonne nouvelle, monseigneur. Les Sardaukars ont amené le duc. »«
Bien sûr, » grommela le baron.
Il examinait le sombre masque de la Vilénie sur le visage efféminé du Mentat. Et ses yeux, ses deux fentes bleues.
Bientôt je devrais m'en débarrasser. Bientôt, il ne me sera plus utile et il deviendra un danger positif.
Néanmoins, tout d'abord, il faut que la population d'Arrakis en vienne à le haïr, afin d'accueillir plus tard mon cher Feidrofa comme un sauveur. Le baron reporta son attention sur le capitaine des gardes, Eumann Kudu. Des mâchoires nettes, les muscles faciaux tendus, le menton comme la pointe d'une botte. Un homme dont les vices étaient bien connus et en qui l'on pouvait avoir confiance.
Tout d'abord, où est le traître qui me livre le duc? Demanda le baron. Il doit recevoir sa récompense.
Peter pivota sur la pointe des pieds et fit un geste à l'intention des gardes. Il y eut quelques mouvements, noirs, et Yue s'avança. Ses gestes étaient raides, tendus. Sa moustache tombait, morte, de part et d'autre de ses lèvres trop rouges. Seuls ses yeux semblaient vivants. Il fit trois pas dans la pièce et, sur un geste de Peter, s'arrêta. Immobile, il regardait le baron.
« Ah, docteur Yue. »«
Monseigneur Harkonnen. »«
Vous m'avez livré le duc, à ce que l'on me dit. »«
Telle était ma part du marché, monseigneur. » Le baron regarda Peter. Peter acquiesça. Le baron revint à Yue.
Exactement le marché convenu, hein? Et je... »
Il parut cracher les mots.
« Qu'étais-je censé faire en retour ?»«
Vous vous en souvenez parfaitement, Monseigneur Harkonnen. » Et Yue se remit à penser, à prêter l'oreille au silence énorme des horloges de son esprit. Il avait su lire dans les gestes du baron, dans ses paroles.
Wana était morte.
Elle leur avait échappé pour toujours. Si cela n'avait pas été, ils auraient maintenu une emprise sur lui, le faible docteur. Mais il n'y avait plus d'emprise. Plus rien.
Vraiment ? Dit le baron.
Vous m'avez promis de délivrer ma Wana de ses souffrances. Le baron hocha la tête.
Ah oui, je me souviens. Mais je l'ai fait. Telle était ma promesse. C'est ainsi que nous avons fait fléchir le conditionnement impérial. Vous ne pouviez supporter de voir votre sorcière Bene Gesserit se tordre dans les amplificateurs de souffrance de Peter. Eh bien, le baron Vladimir Harkonnen a tenu sa promesse. Il la tient toujours. Je vous avais dit que je libérerais votre Wana de ses souffrances et que je vous autoriserais à la rejoindre. Qu'il en soit donc ainsi.
Et il tendit la main vers Peter. Les yeux bleus du Mentat flamboyèrent. Son mouvement, soudain et fluide, fut celui d'un chat. Le couteau dans sa main brilla comme une griffe. Il le plongea dans le dos de Yue. Le vieil homme se roidit. Ses yeux ne quittèrent pas le baron.
« Rejoignez-la donc !»
lança le baron. Yue oscilla. Ses lèvres bougèrent lentement, avec précision, et sa voix, quand il parla, avait un rythme étrange.
« Vous pensez que vous m'avez détruit? Vous croyez que je ne savais pas ce que j'avais acheté pour ma Wana ?»
Il tomba, sans se courber. Il ne s'effondra pas. Il tomba, comme un arbre.
« Rejoignez-la donc !» répéta le baron.
Mais ces mots étaient sans écho. Yue venait d'installer en lui de l'appréhension. Ses yeux se portèrent sur Peter. Il le vit qui essuyait la lame avec un chiffon. Il vit une douce satisfaction dans le bleu de ses yeux. « C'est donc ainsi qu'il tue de sa main, » songea-t-il. « Voilà qui est bon à savoir. »«
Il nous a vraiment livré le duc ?»
demanda-t-il.
« Certainement, monseigneur. »«
Qu'on l'amène alors !»
Peter regarda le capitaine qui pivota pour obéir. Les yeux du baron s'abaissèrent sur le corps de Yue. L'homme était tombé comme un chêne, comme si chacun de ses os avait été fait de bois dur.
« Je ne parviendrai jamais à faire confiance à un traître, » dit-il. « Même un traître créé de ma main. »
Il regarda la baie envahie de nuit. Tout ce noir là-dehors était à lui. Le grondement de l'artillerie avait cessé. Les cavernes du bouclier étaient scellées maintenant. Tout à coup, l'esprit du baron ne pouvait plus concevoir quelque chose de plus beau que cette noirceur, ce vide total. Ou bien, du blanc sur ce noir. Un blanc laqué. Un blanc de porcelaine. Mais il y avait toujours ce doute en lui. Qu'avait donc voulu dire ce vieux fou de docteur? Bien sûr, il avait dû se douter du sort qui lui était réservé, mais qu'avait-il dit? Vous pensez que vous m'avez détruit? Qu'est-ce que cela signifiait? Le duc Leto Atréide apparut sur le seuil. Ses bras étaient maintenus par des chaînes. Son visage d'oiseau de proie était maculé. Son uniforme était déchiré, là où avait été fixé son insigne. Les trous, à sa taille, révélaient que sa ceinture bouclier avait été arrachée. Son regard était celui d'un démon.
« Eh bien, » dit le baron.
Il hésitait, aspirant profondément. Il savait qu'il avait parlé d'une voix trop forte, et cet instant, longtemps espéré, avait déjà perdu un peu de sa saveur.
Maudit soit ce docteur pour l'éternité.
Je pense que le bon duc est drogué, dit Peter. C'est ainsi que Yue nous l'a amené.
Il se tourna vers le duc.
N'êtes-vous pas drogué, mon cher duc?
La voix était lointaine.
Leto pouvait sentir les chaînes, la douleur de ses muscles, ses lèvres craquelées, ses joues brûlantes et la soif qui crissait dans sa bouche. Mais les sons étaient étouffés, altérés par une épaisse couverture. Et il ne discernait, au travers de cette couverture, que des formes incertaines.
« Et la femme et le garçon, Peter ?» demanda le baron. « Toujours rien ?»
La langue du mentat courut sur ses lèvres.
« J'ai posé une question !» lança le baron. « Alors ?»
Peter regarda le capitaine, puis le baron. « Les hommes auxquels cette tâche avait été confiée, monseigneur, ont été retrouvés. »
« Eh bien, ont-ils fait un rapport satisfaisant ?»«
Ils sont morts, monseigneur. » »«
Bien entendu. Mais ce que je veux savoir, c'est... »«
Ils ont été retrouvés morts, monseigneur. »
Le baron devint livide.
« Et la femme et le garçon ?»«
Aucune trace, monseigneur. Mais il y avait un verre. Il est arrivé au moment où l'on explorait les lieux. » Peut-être cela s'est-il passé ainsi que nous le souhaitions, comme un accident? Il est possible que...
Nous ne pouvons nous fier à des possibilités, Peter. Et l'ornithoptère porté manquant? Cela ne te dit rien, Mentat?
Il est évident qu'un des hommes du duc a réussi à s'enfuir avec, monseigneur. Il a tué le pilote.
Quel est cet homme?
Un tueur parfait, silencieux. Hawat, peut-être, monseigneur. Ou ce Alec. Il est aussi possible que ce soit Idaho, ou un lieutenant important.
Des possibilités,
murmura le baron.
Et ses yeux revinrent à la silhouette vacillante du duc. Nous contrôlons la situation, monseigneur,
dit Peter.
Non. Où est ce stupide planétologiste? Cet homme, Kynes.
Nous savons où le trouver, monseigneur, et l'on est parti le chercher.
Je n'aime pas la façon dont ce serviteur de l'empereur nous a servi, nous,
grommela le baron.
Les mots traversaient difficilement l'épaisse couverture, mais certains brûlaient l'esprit de Leto.
Aucune trace de la femme et du garçon. Paul et Jessica étaient parvenus à s'enfuir. Et l'on ne savait rien du destin de Hawat, d'Alec ou d'Idaho. Il subsistait un espoir.
Où est l'anneau ducal? Demanda le baron. Il ne l'a pas au doigt.
Les Sardaukars ont dit qu'il ne l'avait pas lorsqu'on l'a amené, monseigneur, dit le capitaine des gardes.
Peter, tu as tué le docteur trop vite, dit le baron. C'était une faute. Tu aurais dû m'avertir. Tu as agi en hâte, contre le bien de notre entreprise.
Il fronça les sourcils.
Des possibilités.
La pensée s'insinua lentement dans l'esprit de Leto. Paul et Jessica se sont enfuis. Mais il y avait aussi autre chose dans sa mémoire. Un marché. Il pouvait presque s'en souvenir. La dent. Cela lui revenait en partie. Un gaz mortel dans une fausse dent. Quelqu'un lui avait dit de s'en souvenir. La dent était dans sa bouche. Il pouvait la sentir sous sa langue. Il suffisait de mordre. Très fort. Pas encore. Quelqu'un lui avait dit d'attendre d'être près du baron. Qui? Il ne parvenait pas à se souvenir.
Combien de temps restera-t-il ainsi?
Demanda le baron.
Peut-être une heure encore, monseigneur.
Peut-être.
À nouveau, le baron se tourna vers la baie. Vers la nuit.
J'ai faim, dit-il.
Cette forme grise là-bas, c'est le baron, pensa Leto. La forme allait et venait, se balançait avec la pièce. La pièce qui se dilatait puis se contractait, tantôt claire, tantôt sombre. Puis elle disparut dans les ténèbres. Le temps pour le duc devint une succession de niveaux.
Ils flottaient vers le haut, les traversant l'un après l'autre. Attendre.